Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Alexandre. Donc moi je suis ravie d'ouvrir cette deuxième journée après cette belle keynote sur un plateau composé de trois femmes. Donc il faut le souligner quand même, on peut les applaudir, c'est difficile en plus hein, le matin comme ça. Trois femmes donc dans l'univers du digital pour un sujet sur les innovations technologiques et quête de sens, comment les ressources humaines se transforment pour placer l'humain au cœur des organisations. Donc trois femmes emblématiques, Laura donc tu es directrice de ressources humaines. Non, pas directrice de ressources humaines toi.
Je reprends mes fiches.
Désolée, c'est difficile le matin. J'y vais. Donc Laura, donc directrice pilotage associée à LVMH Recherche 4.0 et People First. Laure, tu es donc directrice des ressources humaines chez Nestlé dans la division Health Science, et puis Yasmine, donc tu es nouvellement, hein, c'est mal noté sur les kakémono, mais tu es donc DRH, toi, hein, de Groupama Épargne Salariale. Donc déjà, bonjour à toutes les trois et merci d'avoir accepté notre invitation en tant qu'invitée d'honneur. Alors, on va aller très très vite parce qu'on a très peu de temps et on a envie de vous donner beaucoup d'éléments de fond. Donc, question introductive sur le sujet, quelles sont rapidement, donc je sais que c'est difficile, les grandes tendances et les points de contexte au sein de vos entreprises? Laura, je t'en prie, je te laisse ouvrir.
D'accord. Bonjour tout le monde. En introduction, pour moi, c'est plutôt des points de contexte. Moi, je suis nouvellement dans la fonction, rattachée aux ressources humaines. C'est dans une vue un peu plus globale, en fait, que j'ai pris ces fonctions. Et c'est vrai que, pour moi, ça a été un shift au moment de la pandémie. Quand on regarde, en fait, on l'a entendu beaucoup hier et on le lit beaucoup, mais c'est vrai que l'équilibre vie perso-vie pro a été fondamentalement changé avec ce qui s'est passé. Les gens sont beaucoup plus, en fait, axés sur ça. Donc, c'était une tendance d'avant, mais maintenant, c'est devenu au niveau mondial quelque chose d'important. Donc, c'est pas juste un pays, juste une culture. C'est global. Le deuxième point, je dirais aussi, c'est la quête de sens. On l'a dit en introduction, mais c'est la quête de sens dans le sens aussi où on a maintenant aussi beaucoup d'employés, j'allais dire citoyens, c'est-à-dire qu'ils recherchent aussi leur impact individuel dans un collectif. Et quand ils choisissent une entreprise ou un employeur, c'est ce qu'ils regardent. C'est un des critères maintenant qui devient important dans leur choix. Et je pense que c'est très important maintenant pour les entreprises de le prendre en compte. Et puis c'est vrai que c'est un contexte quand même où on a beaucoup de pression sur les responsabilités sociétales, environnementales, donc ça rentre dedans. Et évidemment le troisième point qu'on va aborder plus largement aujourd'hui, j'imagine, c'est cette accélération en fait des nouvelles technologies qui maintenant est encore plus rapide, encore plus qui s'accélère avec des implémentations plus rapides. On a mis 10 ans pour rentrer dans l'ère du digital pleinement. L'IA, ça fait 2-3 ans et on est déjà dedans. Donc, et ça va aller encore plus vite. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles les nouvelles technologies vont accélérer la façon dont les employés veulent travailler, nos talents, mais aussi notre travail, nos fonctions.
Laure ?
Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, chez Nestlé Health Science, on est dans un contexte de transformation profonde puisqu'on change notre business model à deux titres par un nouveau business qui est le complément alimentaire qu'on ne connaît pas du tout et qui est nouveau et qu'on entre par le biais des acquisitions externes. Donc on a des enjeux d'intégration qui sont très forts. Et on est entreprise à mission et on est la première filiale de Nestlé en France à être entreprise à mission, ce qui est très fort pour nous. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Donc notre enjeu de transformation, c'est un peu de mettre du cadre. J'ai bien aimé l'intervention de Nathanaël sur remettre du cadre pour donner de la liberté à l'intérieur de ce cadre et de travailler vraiment quasiment sur les basiques que sont le leadership, l'intégration réussie, l'attractivité des collaborateurs et de vraiment de donner toute sa force au collectif.
Yasmine, donc quelles sont les grandes tendances ?
Alors nous déjà, on va être de plus en plus amenés à se faire connaître avec la nouvelle loi qui vient de passer sur le partage de la valeur, puisque Groupama Épargne Salariale, jusqu'à présent, on est une toute petite filiale de Groupama et on n'est pas très connu. Et du coup, on va doubler nos effectifs dans les deux prochaines années. Donc comment accompagner déjà les managers qui sont en place, comment faire monter en compétence la première ligne pour remettre un management transversal, tout ce qui est les problématiques de recrutement, puisque les tendances aujourd'hui du marché ont complètement changé. Ceux qui recherchent du travail sont en position de force face aux employeurs. Donc comment réussir à les attirer, comment réussir à faire connaître nos métiers, puisqu'on est sur des métiers d'expertise, sur l'épargne salariale, et ensuite comment fidéliser nos talents. Et tout un programme aussi de cooptation pour attirer les anciennes connaissances ou collègues de nos salariés actuels.
Donc beaucoup d'enjeux, merci beaucoup à toutes les trois. Alors Laura, tu viens du monde du digital, hein, avant de basculer côté RH. Tu disais dans le MAG, je ne sais pas si vous l'avez lu, est-ce que vous avez lu le MAG dans le TGV ? Faut dire oui.
Participatif.
Tu disais dans le... Oui, c'est difficile le matin. Tu disais dans le MAG qu'il fallait repenser notre approche du travail. Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors oui, bah, en fait, oui, ça vient beaucoup de mon background, puisque c'est des choses sur lesquelles, dès qu'il y a un changement, une transformation, il y a une peur qui s'installe. Je me souviens du digital, on allait tuer tous les autres canaux de communication, etc. C'est pas le cas, en fait. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité. On l'a vu aussi sur les espaces de travail versus ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on a une complémentarité et les nouvelles technologies vont effectivement changer la donne, c'est-à-dire qu'ils vont tuer des emplois, on va pas se mentir, mais en même temps, ils vont les automatiser. Ce qui permettra aussi à l'humain, ou je veux dire à l'homme et le talent, de se concentrer sur une autre valeur ajoutée et une autre contribution. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, puisque ça reste une opportunité. Il ne faut pas penser qu'on va rentrer dans un monde où tout sera automatisé, qu'il n'y aura plus d'humain, etc. Et en fait, la valeur ajoutée, donc moi j'ai eu la chance de travailler avec, chez Alibaba, et c'est vrai qu'une des façons de penser ça, c'est de dire qu'on ne peut pas aller à l'encontre en fait, de cette évolution technologique, mais il faut pouvoir vivre avec. Et aujourd'hui, la valeur humaine, elle est dans l'émotionnel, elle est dans le service, elle est dans l'expérience, elle est de ce qu'on peut apporter, en fait. Et c'est là où on a un grand changement, et c'est là où aussi les ressources humaines, et c'est pour ça que moi, je suis aussi passée dans ce secteur, c'est que les ressources humaines a cette valeur du service, cette valeur du caring pour nos talents. Et heureusement qu'il y a certaines tâches comme Compenben ou d'autres choses qu'on peut automatiser, ce qui nous permet de réfléchir beaucoup plus sur, ou beaucoup plus vite aussi, sur la façon dont on veut créer en fait nos échelles salariales ou des choses comme ça. Ou alors avant, passer beaucoup, beaucoup de temps sur des fichiers Excel ou à réfléchir à ce qui était possible ou pas possible de faire. Voilà. C'est nous mettre en capacité, vraiment, je crois.
Merci Laura. Allez, donc Laure, entreprise à mission. Donc déjà, peux-tu nous définir ce qu'est une entreprise à mission ? Et puis au-delà de ça, as-tu remarqué depuis la mise en place de cette nouvelle manière de voir cette structure et cette division et de communiquer, est-ce qu'il y a eu un changement d'attractivité côté marque employeur vraiment notoire ?
Alors, moi, je suis très fière qu'on soit devenu entreprise à mission, puisque c'est une initiative de notre comité de direction dont j'étais largement porteuse, parce que j'avais idée que ça portait du sens. L'entreprise à mission, c'est un dispositif qui existe depuis la loi Pacte de 2019. Ça permet aux entreprises qui le souhaitent, donc c'est une démarche volontaire, de se doter d'objectifs environnementaux et sociaux en plus des objectifs de performance classique de l'entreprise. Donc on a changé nos statuts, donc on a signé des nouveaux statuts pour Nestlé Health Science. On a défini une raison d'être et des objectifs statutaires qui sont ancrés. Et le gros changement, c'est que ça change toute la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, on a un comité de mission qui est composé de 5 salariés. Personne du comité de direction n'est dans ce comité de mission. On a 5 membres complètement externes à l'entreprise. On a des membres d'associations, des gens qui sont dans d'autres entreprises, parfois concurrentes. Et eux rédigent un rapport de mission chaque année. Donc on est contraint. On est dans une espèce de contrainte volontaire où on s'oblige à suivre des résultats. Et le dernier changement de gouvernance, c'est qu'on va être audité tous les 2 ans pour maintenir ce statut d'entreprise à mission. Alors moi, ce que je n'avais pas vu arriver pour répondre à la deuxième partie de ta question, Laura, c'est que ça avait un pouvoir quasi magique dès le départ. C'est que dès qu'on a mis entreprise à mission sur nos offres d'emploi, on a augmenté notre trafic. Et tous ceux qui nous rejoignent depuis le mois de mars, alors qu'on a encore, très sincèrement, pas fait grand-chose. Hein. On est dans le temps long, on est dans le moyen-long terme. Les gens nous rejoignent en nous disant « mais on est super fiers de rejoindre une entreprise à mission ». Et moi, je n'avais pas identifié en attractivité, j'avais bien identifié pour nos collaborateurs présents, on y reviendra peut-être, sur la fierté, le sentiment d'appartenance, mais en attractivité, c'est assez génial. Et ça répond tout à fait à la quête de sens.
Merci beaucoup, Laure. Et donc, Yasmine, vous, côté Groupama Épargne Salariale, vous avez fait évoluer votre site Internet. Tu parlais tout à l'heure de la cooptation. De quelle manière vous avez intégré l'IA et quels ont été les grands changements que vous avez mis en place ?
Alors déjà, on avait un site qui était vieillissant et on a vu que la fréquentation était en baisse depuis plusieurs mois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repensé complètement la cartographie de nos métiers, donc en mettant des compétences transverses pour que les gens puissent changer de métier, parce qu'on est un grand groupe, mais la mobilité interne vers notre entité et même vers d'autres entités, elle était très limitée. Donc on a vraiment mis ça en pratique et on a mis un système où les gens posent leur CV et en fonction de leur parcours, ça peut matcher avec ce qui est disponible comme offre. Donc déjà, on gagne beaucoup plus de temps et ça nous permet, nous, de cibler, d'avoir un vivier potentiel. Donc ensuite, à nous, à nos services RH, d'aller les démarcher pour leur proposer les offres qu'on a en interne. Mais c'est aussi eux qui ont cette démarche de venir postuler directement parce qu'ils peuvent voir qu'il y a des passerelles et qu'on va les accompagner et quelle formation va les... quel programme de formation va les accompagner justement au changement de ces métiers, la durée aussi de la formation et est-ce qu'ils vont être tutorés ou pas et sous combien de temps. Voilà. Il y a une vision très claire pour le prochain salarié.
Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'implémentation en termes de nouvelles techno qui révolutionne complètement, mais concrètement, un vrai exemple ? Comme ça, oui, je sais, c'est dur.
Ben moi, je ne suis pas sur la partie IT, donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont pu mettre en place. Moi, je suis vraiment sur la partie HR VP classique. Donc moi, toute la partie SIRH, je ne l'ai pas vue. Je n'étais pas du tout dans ce projet. Donc moi, c'est plus au début, pour demander les missions, ce qu'on attendait, et à la fin du projet, pour voir ce qui allait correspondre et si ça fonctionnait ou pas.
En tout cas, grand changement que tu as pu constater.
Grand changement.
Alors, vous parliez justement du volet du recrutement, toutes les trois. Comment peut-on imaginer l'avenir du recrutement par une modélisation complète ? Par exemple, on imagine un matchmaking, si on se positionne dans 5 ou 10 ans, un matchmaking idéal, le bon candidat au bon poste, une constitution d'équipe qui se fasse de manière automatique avec les soft skills adaptés à chaque division, et pourquoi pas un plan de carrière prédictif via l'IA et donc avoir finalement une vision parfaite et idéale du monde du travail.
Alors oui, non, pas sûr que... Et puis deux choses, pas sûr que 5-10 ans, je pensais peut-être bien avant, et deux, pas sûr que prédictif parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, une chose importante, c'est la data. Et je pense que ce que dit Yasmine est important, c'est que les RH ont beaucoup changé et doivent changer. Et la data est au cœur aussi de leurs expertises et compétences, ce qui n'était pas le cas, ce qui va devenir le cas rapidement. Chez LVMH, on a déployé la certification de tous les RH du groupe. Et Dieu sait qu'on est nombreux, on a 75 maisons, je ne sais même pas combien de RH on est. Et la certification, tout le monde doit être certifié d'ici la fin de l'année. 2023. Donc je crois qu'on est à peu près à 60% des objectifs là-dessus. On continue, on accélère, mais la data, c'est au cœur de ça. Pourquoi ? Parce que pour faire de l'IA, dans ce qu'on est en train de dire, il nous faut de la data. Donc il faut de la data et il faut savoir l'utiliser. Et l'IA se base sur la data de nos talents. Donc une des choses qui va changer énormément, et je le vois dans nos réflexions et dans ce qu'on est en train de mettre en place, c'est comment récolter la data sur nos talents, sur les soft skills. Donc il y a évidemment les compétences métiers, mais il y a aussi ce qu'ils font et créer des équipes projets. Créer une intelligence collective. Donc nous, on a lancé les formations de co-développement d'intelligence collective parce que c'est une autre façon de travailler, parce que ça nécessite aussi des soft skills pour modérer, pour faire en sorte que un groupe puisse travailler ensemble, collectivement. Ça, c'est des compétences qu'on développe et l'IA peut aider à processer toute cette information sur la personne, sur les besoins du collectif, sur les besoins du projet et créer en fait de manière assez rapide des combinaisons sur votre population. Mais pour ça, et pour que ce soit en place, il faut que les RH, effectivement, aient une compétence au niveau de la data, sachent quelle data il faut rentrer. Alors, peu importe le système, j'ai du digital et de l'IT un peu, mais c'est surtout, moi, l'outil ne résout pas le problème. Donc, pour moi, c'est d'abord une question de culture, c'est d'abord une question de mindset. Une fois que c'est fait, il faut effectivement avoir l'habitude de récolter cette data et de la scanner, la mettre dans un système, à un moment donné, et ensuite l'utiliser. Et c'est là où les RH, et je reprends mon point de tout à l'heure, restent de l'humain. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que peut sortir la machine IA en prédictif, c'est toujours les RH qui connaissent mieux les gens, les talents. Mais on peut passer plus de temps à les connaître qu'à rester derrière son ordinateur pour récolter cette data. Une fois que ça c'est en place, je pense qu'on a un potentiel énorme, et pas dans 5-10 ans, mais assez rapidement. Et puis, je vais reprendre un point que j'ai entendu hier, qui est important aussi, dans l'atelier de Worklip, c'était qu'est-ce qu'aujourd'hui attendent les talents Ils veulent être flexibles, ils veulent pouvoir faire du freelancing, être sur des missions et pas forcément sur des carrières, justement, bon, la GPEC, etc. Machin. Mais vraiment sur des missions. Et c'est là où on doit changer, justement, notre façon de voir l'évolution de nos talents dans nos maisons. Alors, la mobilité, c'est vrai que c'est hyper important, je suis d'accord, Yasmine, mais pour la faire correctement, c'est effectivement un matchmaking, comme tu disais, très rapide, des compétences. C'est une chose, mais surtout de la culture et des soft skills. Bien sûr.
Mais de toute façon, on est obligé de repenser l'humain parce que même sur des feedbacks qu'on peut faire sur des entretiens qui n'ont pas fonctionné, on voit toujours que quand on appelle les gens, c'est beaucoup mieux qu'un mail robotique. Donc même si on est accompagné de l'IA et qu'on doit s'adapter à faire évoluer tout notre système RH de fond en comble, il faut quand même replacer l'humain parce que l'humain, le contact humain restera toujours ce qui prime. Et puis de toute façon, la fonction ressources humaines de base, si on oublie l'humain et qu'on met des robots, bon déjà nous on va disparaître et c'est pas le but. Mais non, aujourd'hui, les gens, ils ont quand même besoin de l'humain, et même sur toutes les approches, après, sur la partie sociale aussi, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais tout ce qui est dialogue social, par exemple, avec les partenaires sociaux, c'est pas les robots qui vont pouvoir nous remplacer, hormis sortir tous les articles de loi.
Le compte-rendu du CSE,
mais pour le reste, toute la partie négociation ou discussion, elle est obligée de rester avec l'humain, donc faut pas non plus oublier de repasser l'humain au cœur de ces évolutions.
Moi, ça m'inspire trois réflexions. C'est si l'IA permet d'être plus inclusive dans notre façon de recruter et d'être moins dans le mimétisme, hein, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est un peu l'aspect positif. Sur l'identification des compétences, moi, j'ai beaucoup d'attentes parce qu'aujourd'hui, la connaissance qu'on a dans l'entreprise, elle est très statique, alors qu'on sait qu'on ne connaît pas les métiers de demain, alors qu'on ne connaît pas encore les compétences qu'on a demain. Donc j'attends quelque chose de plus dynamique avec l'IA, que ça génère des façons de voir et d'analyser et d'avoir la data, mais de la data de vraiment de qualité. Et la troisième réflexion, c'est que au-delà de la culture de l'entreprise, moi je suis très attachée à l'unité de travail qui est l'équipe et à la diversité dans une équipe. C'est dans une culture d'entreprise, il y a quand même une équipe et c'est quand même là que la performance collective se joue. Donc comment on intègre ça dans les systèmes, c'est pour moi, c'est encore des questions.
Et sur le volet de la data, on a deux questions en une. Au final, je les fusionne, ce sera plus simple. Parce que tu y as répondu, Laura. Donc en plus, comme on a très peu de temps et qu'on souhaite laisser la partie questions-réponses assez importante. Sur le volet de la data, le traitement de la data, comment ça se passe chez Nestlé?
Alors, chez Nestlé, ça se passe lentement, mais sûrement. Nestlé, c'est 300 000 collaborateurs dans le monde. Donc, on investit sur des projets lourds. Au niveau global, on n'est pas du tout décentralisé. Donc, moi, j'ai quasiment la main sur rien. Donc, les systèmes mettent du temps à venir. Donc là, nous, sur tout ce qui est intelligence artificielle, ça y est, c'est parti. On commence à être formés, nous, dans la fonction RH. Et je dirais qu'on n'est pas forcément les plus en avance sur ces sujets-là, mais quand on arrive de manière hyper solide.
Yasmine, tu souhaites rajouter quelque chose ?
Non, parce que sur la partie data, moi, c'est vrai que je ne la gère pas du tout.
Alors, et sur le volet des compétences et formations ? Tiens, Yasmine, je te relance. As-tu un exemple concret ?
Oui, alors là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait, on a vraiment mis un plan stratégique, entre guillemets, par métier, avec les passerelles, donc comment arriver à tel et tel métier, les compétences recherchées, les compétences qu'on va développer. Et après, ça nous permet de voir aussi le taux de difficulté de passer de tel métier à tel métier, donc pour voir si la formation va être de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, pour se projeter, pour voir si déjà l'équipe va avancer au même niveau, parce que c'est compliqué aussi de faire, de prendre quelqu'un de très junior avec des gens qui sont experts, et aussi de quantifier le nombre de personnes qu'on va avoir sur tel et tel métier, et les coûts que ça va aussi représenter pour la formation interne notamment. Mais on a vraiment ce système de passerelle qu'on a mis en place et qui est très très important, puisqu'on a beaucoup de perditions aujourd'hui, les salariés partent à l'extérieur, et quand on fait des rapports d'étonnement avec eux, ils nous expliquent que c'est parce qu'ils n'ont pas la vision de ce qu'ils pourraient faire dans le groupe par rapport au métier qu'ils font actuellement.
Et sur le sujet des plateformes de formation en ligne, vous situez comment on échangeait hein, dans le TGV l'heure hier sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous fasses ce retour d'expérience parce que c'est très intéressant par rapport à ce que l'on peut imaginer finalement ce qui se passe dans le réel. Vous vous situez comment ?
Alors, nous, on a une université RH Groupama, donc avec plein de learning qu'on a mis en place. Et après, on a développé tout ce qui est J'explique. Donc, c'est des formations qui sont faites par nos experts chez nous en interne et qui vont former les salariés. Donc, déjà, il y a une proximité parce qu'ils connaissent les salariés et un peu plus, ils ont la crédibilité, entre guillemets, si je puis dire, parce qu'ils font partie de l'entreprise, parce qu'ils connaissent les métiers et c'est pas des prestataires externes qui viennent nous vendre une formation. Là, c'est vraiment des gens qui sont impliqués et même dans la formation, comment ils vont la mener, on voit la différence avec des prestataires externes.
Donc l'IA ne remplace pas l'humain sur ce volet-là. Laure ?
D'accord, l'IA ne remplace pas l'humain et nous, on a expérimenté, on a évidemment un LMS, une plateforme de e-learning, etc. Le e-learning tout seul, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, on peut le tourner dans tous les sens. On a beau dire aux gens, vous avez tout à disposition. Le problème, c'est que les collaborateurs, ils ont trop à disposition. Donc, nous, on a mis en place un programme de leadership il y a 2 ans pour accélérer la transformation à laquelle on savait qu'on allait faire face. La différence avec les programmes de leadership traditionnels, c'est qu'on a embarqué tout le monde. C'est-à-dire qu'on a embarqué du DG aux collaborateurs lambda. On n'a pas fait le codir, puis les managers, puis les collaborateurs. Ça crée une attente, en fait. Et du coup, les managers se sentent observés. Quand on se sent observé, on est meilleur. Ce qui était intéressant, c'est que pour assurer le suivi de ce programme de leadership, pour embarquer les nouveaux, puisqu'on acquiert des sociétés et qu'il y a des nouveaux qui arrivent, on s'était dit, bon, on va mettre tout ça sur e-learning, ils vont faire leur programme et ils rejoindront le programme de pratique par binôme avec nous. Et en fait, ils ne font pas. Donc là, back to basic. Hein, les gars, on va réapprendre à boire le café ensemble. En plus, vous arrivez, donc on va vous mélanger et on va faire 25% de théorie. L'e-learning, on va s'en servir parce que les vidéos sont super et on va s'en servir de façon tutorée. Mais on va faire 25% de e-learning et 75% de pratique ensemble. Donc, j'ai vu hier des prestats sur l'impact de tout ce qui est mode de learning, etc. Maintenant, moi, je continue de penser que l'apprentissage par l'expérience, on n'a pas trouvé de mieux pour le moment.
Je voulais rebondir dessus parce que c'est vrai que moi ça m'étonne beaucoup. Nous, on a mis en place aussi une plateforme de e-learning, enfin LMS. Et en fait, c'est pas tant l'outil, hein. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, mais c'est plutôt la façon dont effectivement on accompagne dans les contenus. Alors, moi j'ai vu des prestats extraordinaires hier, hein, je le dis, sur tout ce qui est génération de contenu, comment facilement les RH et les experts eux-mêmes peuvent nourrir cette plateforme. Mais effectivement, j'ai pas d'explication là, mais moi je sais que les derniers chiffres que je regardais sur la plateforme, c'est qu'il y avait un taux d'utilisation assez fort. Les gens complétaient leur cycle. Ce sont des cycles personnalisés par rapport à leur métier. C'est aussi dû à ce qu'on pousse. Alors, le groupe LVMH est effectivement un grand groupe. Je peux parler de toutes les maisons, mais je peux parler de Dior, parfum Christian Dior, et LVMH Recherche, puisque c'est assez lié. Ce sont des formations en fait qui permettent, et ils sont assez proactifs, à avoir l'acculturation aussi de l'entreprise avant qu'ils arrivent. Au niveau du groupe, on a une plateforme Inside LVMH. Au niveau de Dior, on a 7 plateformes auxquelles ils ont accès. Donc, et quelque part, il y a une appétence aussi à connaître la maison, le groupe avant. Donc, il y a un fort taux d'usage sur ces modules-là. Ensuite, il y a les modules qui sont effectivement plus génériques, donc sur la culture d'entreprise, le management, le leadership. Où là, il y a un vrai accompagnement des équipes et des managers et des RH. Mais c'est important pour nous d'avoir une culture partagée. Donc, sur ces modules-là, c'est des modules obligatoires dans leur parcours. Et au bout de... Dans l'année où ils arrivent, on a effectivement une partie intégration physique où ils passent 3 jours ensemble. Et là, c'est plus l'idée de l'intelligence collective, du réseau, puisqu'on est... On est des grandes maisons, et de créer en fait un réseau de connexion support entre eux. Et donc, on a Teams aussi, on crée des communautés. On a une approche assez communautaire, ce qui fait que j'ai l'impression, mais je n'ai pas d'explication chiffrée, mais que nous, sur cette partie en fait formation et learning, il y a un taux d'adoption assez fort, puisque ça vient en soutien et en accompagnement de ce qu'ils vivent au quotidien et de leur développement en fait dans l'entreprise. Et du partage, en fait, on va dire, du sens. Et la chose, moi, que je constate aussi depuis un certain temps, c'est ce que je disais, c'est le fait qu'une fois qu'ils ont ça, ils ont ce sentiment d'appartenance, ils ont cette connaissance de la maison, mais ce qu'ils veulent, c'est pouvoir évoluer. Alors, on revient sur la mobilité. Et là, ils vont chercher, parce qu'il y a pas mal de plateformes dans le groupe, dans les maisons, ils vont aller chercher de l'information. Et donc, c'est là où, sur notre plateforme Dior, par exemple, et LVMH Recherche, on a pas mal de ponts vers les autres plateformes de maisons. Et de description de job, enfin en tout cas de métier, parce qu'on a évidemment énormément de métiers. Et c'est là où je trouve que ils sont assez proactifs, mais c'est surtout on les pousse à utiliser ça pour être préparés. Et dans la mobilité, pour nous, c'est important que les gens se préparent. On a 7 divisions, on a vraiment des métiers qui vont de l'hôtellerie, qui vont aussi. J'avais quelqu'un des Échos parisiens que j'ai croisé hier. On est vraiment aussi dans les maisons de luxe, maroquinerie, fashion, mais on est aussi dans les joailleries. Quelqu'un qui rentre dans un groupe comme le nôtre et qui n'a pas cette curiosité et cette appétence à grandir, c'est compliqué. Donc je dirais que naturellement, je pense qu'effectivement, il sortirait d'un track d'évolution. Et donc, par expérience, j'ai pas du tout la même perception sur les derniers chiffres que j'ai vus de l'utilisation de nos plateformes de learnings, de e-learnings même, mais qu'on a mis en place il y a, je crois qu'on l'a refondu il y a 2 ans. Enfin, quand je suis arrivée, 6 mois après, on était en train de lancer la nouvelle version, où on mélange les deux et dessus, ils ont aussi le calendrier en fait, de leur formation physique. Mais du coup, ça reste un point d'entrée assez important d'évolution. Et on dit, chez nous, on a mis en place, il faut prendre en charge votre propre développement, les responsabiliser. Et ce n'est pas au RH de vous dire ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, qu'il faut aller voir. Et donc, c'est pour ça que c'est un outil important pour moi d'autonomie. Et c'est ce qu'ils cherchent. Je vais arrêter de parler, sinon...
Si, c'est très intéressant.
Non, et alors sur le freelancing et tout ça, et donc après,
Oui, on a très peu de temps, c'est triste d'ailleurs. On devrait voir avec Alexandre pour faire une conférence de 2 heures. Et sur le volet de l'équilibre vie pro-vie perso, pensez-vous que l'IA va pouvoir promouvoir cet équilibre et cette quête de sens? Ou au contraire?
Ouais, moi je vais me lancer.
J'adore le sujet de l'IA.
Ouais, j'adore. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, puisque j'ai fait une thèse professionnelle sur le sujet il y a 15 ans. Donc. J'ai sorti mes premiers accords de télétravail chez Nestlé. On est sorti à 2 jours de télétravail en 2008. Donc, on était plutôt pas mal à l'époque. Mais on est toujours à 2 jours. C'est un peu le problème. C'est que depuis, on n'a pas cranté encore. Je pousse,
pionnier,
mais
pas d'évolution.
J'ai un succès très limité. Moi, je pense que la nature a horreur du vide. Et je pense que l'IA, elle va pas du tout permettre d'améliorer l'équilibre de vie professionnelle, parce qu'on va remplir par autre chose. Je crois plus au temps contraint. On voit ici, on fait des speed dating de 7 minutes. On voit la force de ce qu'on peut apprendre, partager ensemble en 7 minutes. Avoir un deuxième meeting si on est plus intéressé, etc. L'IA, c'est sûr, je rejoins tout à fait ce que tu disais, Laura, en début de conférence. Ça va permettre de sortir de la tâche à valeur ajoutée, de donner plus de sens, etc. Ça, oui. Maintenant, est-ce que ça va améliorer l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Moi, je crois que ce n'est pas fait pour ça. Enfin, je ne demande qu'à être surprise positivement sur le sujet.
Enfin, je trouve que c'est pas deux sujets ou deux concepts que j'aurais associés, parce que on voit bien que les nouvelles techs, en fait, c'est énormément d'informations à absorber pour le cerveau humain. Ça va toujours plus vite que nous, c'est toujours plus rapide, toujours plus. Plus exact d'ailleurs, hein, puisqu'ils ne font pas d'erreur, eux. Mais c'est là où je trouve que c'est cette pression, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit compatible sur une vie, une sérénité, vie perso, vie pro. Mais je me dis que c'est un choix, enfin, je le vois moi de plus en plus d'expérience, c'est un choix que font les gens, en fait, à un moment donné. Et je pense, et je reviens à mon premier point sur la pandémie, ça a eu un impact tellement fort sur la façon dont les gens ont eu un rapport au travail, un rapport à ce que ça leur apportait, que je pense que c'est pas du côté de l'IA qu'il faut le regarder, c'est plutôt du côté du cerveau humain et de l'émotion et la façon dont on s'épanouit, nous, et de ce qu'on recherche aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens se sont beaucoup remis en question et ils ont changé leur centre avec le travail, leur centre de gravité. Et donc, IA ou pas, je pense que ça dépend plutôt d'eux, et l'IA peut leur permettre, on dit l'IA, mais en vrai, moi je parle de nouvelles tech en général, on voit bien les outils digitaux, que ce soit les visios, les machins, enfin, moi je suis contente de pouvoir faire beaucoup de réunions en visio et de ne pas prendre l'avion, alors pas contente parce que j'adorais prendre l'avion, mais disons que ça m'arrange pour pouvoir aller chercher mes enfants et de ne pas avoir à me dire j'ai des trajets à absorber. Donc ces nouvelles technologies nous permettent de mieux s'organiser si on arrive à bien le vivre, parce qu'il y en a qui vivent ça avec une pression de données, de sollicitations en permanence. Et c'est là où je me dis non, en fait, le rapport, les concepts, c'est pas IA, vie pro, vie perso, c'est les gens versus tous les outils qu'on va leur mettre à disposition. tous les outils qui sont maintenant à leur disposition et qui vont être encore demain, et la façon dont ils vont les utiliser.
Yasmine ?
Mais surtout qu'on a le droit à la déconnexion maintenant et qui vient un petit peu flouter toutes les nouvelles technologies qui, au contraire, on est tout le temps connectés, etc. Et donc, nous, déjà, les RH, on va devoir faire attention à ce droit à la déconnexion parce qu'on l'oublie un peu trop. Mais non, l'IA ne va pas... Je pense que, comme tu disais, Laure, ça va les aider à mieux s'organiser sur leur temps de travail, sur comment ils vont travailler, leur fonctionnement de travail, mais pas apporter plus un équilibre vie pro, vie perso.
Et alors sur le sujet, ce sera la dernière question, donc réfléchissez bien à vos questions parce qu'elles vont arriver juste après. Sur le sujet de la QVCT qui est très actuelle hein, avec les évolutions de loi, je pense à la loi santé justement du 2 août 2021, quelles sont les nouvelles technos que vous mettez en place au sein de vos organisations pour mesurer et améliorer le bien-être et la santé mentale dans vos entreprises ?
Alors nous, le bilan social déjà c'est un bon baromètre pour voir comment les salariés se sentent. Et ensuite on a aussi le baromètre avec les instances du personnel qui nous font remonter. Donc c'est une fois de plus l'humain et la technologie. Mais après on n'a pas mis spécialement d'outils pour mesurer un peu plus la QVT au sein de notre organisation.
Et pour améliorer ?
Alors pour améliorer, hier on a eu la très belle formation, enfin le très bon atelier qui nous montrait que les espaces de coworking étaient ce qui était demandé et l'aménagement de belles salles de repos dans l'entreprise, des beaux locaux, des adresses. On essaye le télétravail aujourd'hui, on essaye de le réduire parce que aujourd'hui c'est un gros sujet. Est-ce qu'on attend le télétravail dès que la période d'essai est valide ou pas ? Ça c'est quelque chose où au début on était très fermé, il fallait attendre les 6 mois et maintenant on se rend compte que c'est pas possible, donc on le met en place dès les premiers 15 jour. Donc on s'adapte en fonction des remontées qu'on a et des freins qu'on rencontre avec nos candidats.
Laure ?
Nous, on a aussi des enquêtes sur les risques psychosociaux, etc. Donc on a des plans d'action assez déterminés. Et nous, ce qu'on essaye de faire chez Nestlé, c'est d'avoir une approche collaborateur 360. Donc pour vous donner un exemple, cette semaine, on a signé la charte de cancer at work. On a publié notre premier guide sur les aidants. On sait qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui sont concernés, donc je suis ravie qu'on s'intéresse plus uniquement à la petite enfance de l'enfant de 0 à 3 ans, n'en déplaise à certains, mais qu'on comprenne le collaborateur dans son entièreté tout au long de sa vie professionnelle.
Laura, un mot sur le sujet de la QVTC ?
Alors, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que, en fait, comme je suis pas RH de métier, je suis plutôt, ça me semble évident en fait cet environnement, mais j'ai pas les actions que les RH mettent en place. Je fais pas de distinction vraiment là-dessus. Je pense que de mon point de vue à moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui prennent du sens, mais parce que ce sont des attentes en fait des talents et des employés. Beaucoup de choses qui sont demandées ou en tout cas sont discutées collectivement. Je pense qu'il y a des enquêtes. Moi, j'ai participé à plein d'enquêtes en interne sur justement qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui est important pour nous, etc. Et derrière, il y a des actions effectivement qui sont mises en place. Après, on a beaucoup de sujets autour de ça sur l'environnement de travail. Ça dépend des métiers. Chez Dior, on a quand même des chaînes, des usines, des chaînes d'opérations, mais c'est assez différent de ce qu'on peut demander quand on est dans le bureau toute la journée. Mais quand même, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est une prise de conscience. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est une prise de conscience vraiment collective. C'est pas les RH qui ont décidé un matin ou une loi qui a décidé un matin de il faut absolument qu'on se préoccupe de la qualité de vie de nos employés. Donc, moi, j'ai l'impression que ça a toujours été un échange et une discussion. Dans toutes les entreprises, pour le coup, où j'ai été. Et donc, moi, je pense que c'est important. Et c'est quelque chose, j'imagine, qu'on fait tous. Après, je pense que les baromètres, pour les baromètres, c'est des choses, en fait, qui donnent des indications, c'est vrai. Ça donne toujours on appelait pulse, parce que pour moi, c'est pulse. On l'appelle comme ça chez nous. Et ça nous donne une idée. Et après, ce que je trouvais très drôle pour nos discussions, quand j'y pensais, c'est on fait, nous, les cafés, le matin, on fait encore... de culture, café and so, on appelle ça. Et donc, tous les 15 jours, je pense, il y a un matin, les gens peuvent venir, on fait un café, 2-3 personnes qui sont représentées de la direction, et il y a des discussions un peu, sans échange. On avait organisé un peu ça avec le CEO de Dior à une époque, et c'est vraiment 5-6 personnes qui passent un moment à prendre un café avec le CEO. Et je trouve que c'est des temps d'échange hyper importants pour garder justement la connexion aux équipes. Et donc, Est-ce que de là découle effectivement des retours sur la QVC, j'imagine. Après, moi, je ne mets pas d'étiquette, donc j'avoue que je ne sais pas, mais ça doit être ça.
Laura, tu souhaites rajouter un... Laure, pardon, tu souhaites rajouter un...
Non, non, tout pareil. Moi, j'emmène 8 collaborateurs chaque mois de différents services déjeuner ensemble. Et on découvre à chaque fois, même des collaborateurs que je connais depuis plus de 20 ans, je découvre des choses nouvelles sur eux, sur leurs attentes. Et ça permet vraiment de prendre le pouls au quotidien. Et on s'est réparti la tâche avec mon DG. Mon DG, lui, il va voir les collaborateurs. Il déjeune avec tous les collaborateurs une fois par an, au moins. Donc... on n'est pas loin de 200, faites le compte. Donc il y a une proximité qui est juste indispensable.
Allez, un mot de conclusion sur notre sujet de la conférence, sujet du jour, innovation technologique et quête de sens. Laura, je t'en prie.
Ah, bon, je commence, mais... en fait, pour moi, c'est pas une conclusion, mais je pense que c'est un message, enfin, en tout cas, quelque chose que j'aimerais donner sur les tendances. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les organisations, en tout cas la fonction RH, parce que je l'ai précisé il n'y a pas si longtemps, pour moi, la fonction RH est en train de changer et elle fait face à des challenges quand même hyper importants. Je crois que c'est une fonction qui a été beaucoup sous-estimée, qui est passée beaucoup sous le radar. Avec la pandémie, ça a été mis en avant, il y a eu une pression dingue sur les fonctions RH. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont encore sous pression parce que... Alors, ils ont, puisque je vais essayer de m'inclure, nous sommes encore sous pression parce qu'on a vraiment une responsabilité à concevoir, ce que je disais dans l'article, et je trouve ça hyper important, à concevoir des organisations fluides, liquides, des organisations qui changent en permanence, qui doivent s'adapter aux talents, qui doivent s'adapter à notre espace de travail, qui doivent s'adapter aux enjeux de l'entreprise, qu'elles soient mission ou qu'on ait des objectifs business assez importants au niveau national, international, géographie différente, etc. Et en même temps, à être dans un côté hyper caring pour les gens, proximité, on disait le sens de l'appartenance, on a des vrais enjeux d'attractivité, désirabilité, parce que il faut mettre en avant d'autres choses de l'entreprise pour attirer les meilleurs talents. Et en plus, derrière, on parle de la culture interne, de la rétention. C'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est une fonction aujourd'hui où on demande beaucoup de choses. On demande à la fois d'être aussi data, alors digital, IT. On est hyper transversal en entreprise. Et c'est comme l'eau. C'est ce que je disais. En fait, on doit couler partout, on doit être partout sans être non plus des empêcheurs de tourner en rond. On ne doit pas bloquer, ça doit être hyper fluide. Mais encore une fois, c'est une fonction qui n'est pas aidée elle-même à évoluer. Et c'est pour ça que, en tout cas, mon message est de dire aujourd'hui, c'est très bien en fait qu'on ait une verticale sur cette fonction et ce service, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles on fait pour nos talents et pour l'entreprise. Mais peu de personnes en fait pensent à la fonction RH en tant que telle. Et je trouve que c'est vraiment important de se dire on a vraiment une fonction importante dans l'entreprise. C'est pas juste un service. Plus, quand ça se passe bien.
Justement, j'en profite pour rebondir. C'est vrai que la RH, on a été souvent catalogué un petit peu de ne pas connaître le business, d'être loin, d'être toujours celle qu'on vient voir pour l'attestation employeur, etc. Et aujourd'hui, les évolutions technologiques, on voit que tous les métiers s'y adaptent. Et les RH, on va devoir être contrainte de s'y adapter aussi, sinon on va toujours passer pour celles qui sont en retard dans l'entreprise. Et les entreprises qui ne vont pas réussir à s'adapter, c'est celles qui vont être mises sur le côté et qui vont avoir encore plus de mal à recruter et toutes les problématiques qu'on connaît déjà nous quand on est paré avec toutes ces évolutions. Mais il va falloir vraiment s'en inspirer et toujours replacer le côté humain, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, mais le prendre comme un partenaire. C'est vraiment de fusionner les deux synergies pour avancer ensemble.
Moi, en conclusion, et sans surprise, j'adore la notion de l'équipe, c'est le maillon fort, et le gros maillon fort en sein de l'équipe, c'est le manager. Donc, moi, je crois à la démultiplication de la puissance de la RH par le biais du manager et par la volonté des équipes.
Et beaucoup de partenaires ici présents qui peuvent vous aider, qu'on peut quand même le souligner. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, y a-t-il des questions ?
Les frigos.
Effectivement, je pense que les frigos Foodles peuvent jouer un rôle important, mais c'était pas du tout l'objet de ma question. Déjà merci, parce que je trouve ça hyper intéressant. On a trois beaux groupes qui donnent des témoignages qui nous aussi nous concernent, parce que quand on recherche un emploi, c'est des choses qu'on va regarder. Et moi j'avais une question plutôt, est-ce que la partie génération en fait dans votre entreprise joue un rôle? Par exemple, vous parlez de la formation e-learning. Est-ce que du coup, voilà, moi par exemple j'ai 34 ans, c'est quelque chose peut-être qui va plus me parler qu'une personne peut-être qui a 50 ans, pourtant qu'on va recruter pour ses compétences, qui va peut-être moins être concerné par ça. Est-ce que vous êtes confronté à ça, justement, ce côté générationnel et exigence, en fait, nous, de notre public? C'est vrai qu'on attend beaucoup de choses au niveau digital. Je pense qu'on est plus habitué à ça. Donc, et comment vous faites? Et voilà.
Le sujet de la fracture numérique. Aujourd'hui, je crois qu'on a 4 générations qui travaillent ensemble. Avant, ce n'était pas le cas. Les gens travaillaient un peu moins longtemps. Ça dépend des populations. Moi, je travaille sur des populations siège, terrain et usine. Donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. C'est sûr qu'on on a intérêt dans les entreprises à mettre un patchwork d'outils à disposition. Pour certains, ça va être le e-learning. Pour d'autres, ça va être le e-learning tutoré. On met en place pas mal pour les forces de vente qui sont en plus à distance, des cafés d'apprentissage, des outils. Parce qu'il n'y a rien de plus dur quand on arrive dans une boîte de se dire « je ne sais pas faire ». Moi, on vient d'acquérir une boîte de 50 personnes, toutes petites, à Outlook, ils ne savent pas répondre à une invitation. Et pas forcément des quinquagénaires, mais parce qu'ils n'ont jamais vu. Donc nous, on est dans une logique, on croit que tout le monde sait ce qu'on sait faire, parce que c'est le basique. Et en fait, on sous-estime toujours le temps qu'il faut passer avec les collaborateurs pour apprendre et apprendre à apprendre. C'est un peu le même parcours du combattant qu'à l'école. Comment on apprend à apprendre au mieux?
Alors... Oui, enfin nous quand on regarde notre population, alors LVMH Recherche c'est pareil, hein, c'est il y a vraiment beaucoup de types de populations entre LVMH Recherche qui sont des scientifiques, des doctorants avec des bacs plus 12 parfois, enfin et la partie parfum Christian Dior, on a les usines où les gens n'ont pas accès de toute façon, ils sont sur la chaîne et même leur métier change puisqu'on a digitalisé aussi beaucoup de choses sur la chaîne de production. Donc en fait globalement, moi je pense qu'il y a un vrai accompagnement à faire là-dessus. Évidemment qu'on doit s'adapter, on doit les accompagner. Il y a un côté, alors il y a le e-learning, mais il y a aussi leur évolution dans leur métier en tant que tel, hein, qui est très importante. Et donc ça doit passer effectivement par ces phases de transition. Alors moi je suis dans la transfo, donc je vis en permanence en fait en transition. La transformation, c'est justement amener les gens à adopter des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de penser, des nouveaux outils, etc. Donc oui, c'est pas une question générationnelle pour moi en fait, c'est vraiment une question aussi de culture d'entreprise et de dire voilà. Voilà, où est-ce qu'on va ? Nous, on est quand même tiraillés entre des savoir-faire métiers de centaines d'années et des impératifs, on va dire, business d'aujourd'hui et de l'informatique et du digital et tout ça. Donc, moi, je pense que ce grand écart, il existera toujours et c'est pas si mal, en fait, puisque si on n'est pas dans une zone de confort, on s'améliore toujours. Et je pense que les gens, voilà, c'est ça. Après, il faut que ce soit fait avec un vrai accompagnement, et je pense que c'est l'essentiel. Donc, ce n'est pas que le e-learning, je pense que c'est tous les outils, tu citais Outlook, mais en vrai, moi, je le vois sur les chaînes de prod, hein, c'est le cas. Et même l'IA qui est appliquée maintenant à nos tests d'évaluation, de formulation, même si ce sont des gens qui ont fait des études, qui machin, pour eux, c'est quand même, ça reste un grand changement. Mais je pense qu'on a cette capacité à apprendre complètement, enfin, heureusement.
On est dans la personnalisation, encore une fois. Ouais,
complètement. Y a-t-il une autre question? Oui.
Bonjour. On parle beaucoup de révolution du métier des RH suite à l'arrivée de l'IA. Est-ce que vous avez l'indépendant du métier des RH et d'accompagner la transformation des entreprises dans son évolution, les métiers, etc. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour identifier les futurs métiers qui seront présents dans votre entreprise dans quelques années? Vous l'avez dit, Laura, le digital a mis près de 10 ans à arriver. Aujourd'hui, l'IA, ce sera dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera très rapide. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour pouvoir les identifier?
Moi, je crois plus à l'identification des compétences des métiers que des métiers du futur, parce que les métiers du futur, moi, j'ai très conscience qu'on ne les connaît pas encore, en fait. Donc, moi, je discutais avec les experts du community group. Moi, j'arrête de cramer du gaz sur les cartographies métiers, etc. Ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est vraiment la compétence, ce qu'on sait faire et ce qu'on aura besoin de savoir faire demain. Donc, l'évolution du métier, oui, mais quelles compétences et pourquoi faire, avec quelle intention derrière?
Je vais rebondir là-dessus parce que je pensais exactement ça, c'est-à-dire que donc je reviens sur ce qu'on disait, ce que je disais sur la peur de ces nouvelles techs. En fait, faut savoir se réinventer en tant que humain et en tant que, enfin, j'allais dire nos qualités humaines. cœur, ce qu'on sait faire. Et quand on dit compétences, c'est vraiment, oui, ce qu'on doit faire. On appelle ça les soft skills chez nous, mais voilà, c'est notre adaptabilité, c'est notre capacité à certains à être transversaux, d'autres pas. On parlait beaucoup de managers tout à l'heure. Nous, chez nous, on a beaucoup d'experts. Et moi, je disais, en fait, le manager n'est plus forcément la fonction ultime. Enfin, les experts, c'est hyper important, mais il faut que ce soit des experts qui sachent travailler ensemble, ce qui est encore autre chose. Mais c'est ces compétences. Moi, enfin, de ma carrière, je n'ai jamais su. Enfin, tous les métiers, si vous regardez, je n'ai jamais su ce que j'allais faire demain, puisque ça n'existait pas. Donc, je ne crois pas qu'on ait des boules de cristal et que l'IA sache mieux que nous, puisque d'ailleurs, l'IA apprend de nous. Donc, ça va être compliqué. Ils peuvent faire des projections, mais comme tu demandais ta première question, hein, dans 5-10 ans, je ne crois pas. Et parfaitement, certainement pas, puisqu'on ne sait pas. Mais par contre, effectivement, il faut capitaliser sur ce qu'on a et s'adapter. Et je pense que c'est là où l'entreprise a beaucoup changé, en tout cas depuis que j'ai commencé à travailler. On ne rentre plus dans des cases. Hein, c'est plus, au contraire, les gens regardent moins. Alors, moi, j'ai une carrière internationale, mais quand je suis revenue en France, ça reste encore un peu plus en France franco-français. Hein, mais on regarde le potentiel des gens, en fait, à l'international. On ne regarde pas ce que vous savez faire, forcément. Et je pense que c'est un peu ça, hein, le shift qu'on doit se dire. C'est on ne regarde pas forcément ce que vous avez acquis et que vous avez cranté en termes de compétences, mais qu'est-ce que potentiellement vous pouvez faire. Et pour moi, c'est ça, hein, l'IA.
Enfin, on est d'accord.
Merci. Une dernière question.
Oui, juste une question, parce qu'on a pas mal parlé de la transformation de la fonction RH. Quand on est sur le sujet des espaces de travail, un des sujets qu'on voit beaucoup, nous, sur le terrain, c'est un peu le sujet de prédilection de l'immobilier ou de l'environnement de travail au départ. Et on se retrouve, quand on a de la chance, dans des groupes projets transverses avec HR, immobilier et digital, d'ailleurs, parce que l'espace de travail aussi est impacté par la digitalisation. Comment vous vivez ça sur le terrain? Moi, j'ai vu quelques projets où l'immobilier, l'environnement de travail dépendaient de la RH. Et finalement, la RH devenait une fonction quasiment... sur l'expérience collaborateur au global, qui intègre du coup l'espace de travail, et je trouvais ça super inspirant. Quand je dis ça à des directeurs immobiliers, ça leur plaît pas trop, mais je suis assez convaincu de ça, et je voulais savoir comment vous le viviez dans votre entreprise et comment cette dichotomie un peu entre RH et immobilier ou environnement de travail se vit, et si vous avez l'impression qu'elle évolue dans le bon sens.
Moi, je bondis sur la question parce que c'est vraiment mon sujet, mais du quotidien. Là. En fait, vraiment, ma fonction de directrice de pilotage sur LVMH Recherche 4.0 et People First, quand je l'ai prise, en fait, c'est une fonction transversale qui inclut à peu près tous les métiers de support. Donc, ça va du contrôle de gestion finance aux équipements, donc à l'immobilier, en passant par le digital, l'environnement IT, les RH, les ways of working dans le sens process, organisation, HSE, et communication aussi. Donc, c'est hyper large. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, enfin, et en fait, effectivement, le projet d'extension, en fait, c'est marrant parce que quand on parle des espaces de travail, c'est en fait, ça part d'un besoin. Alors, je ne sais pas les autres, mais nous, c'est bon, on est en hyper croissance. Comment on fait? Bon, il y a le télétravail, on va essayer de mettre des gens là où il n'y en a pas, etc. Ça commence comme ça. Donc, ça commence par l'ingénierie, donc facilities. Enfin, non. On va avoir une approche talent. Mais là, ça veut dire new ways of working. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on attend? Quelle est la culture de l'entreprise? Ah mince, il faut mettre quelqu'un de là comme. Et on se retrouve, et j'avoue que je n'ai pas craqué le truc, hein, puisque je vous ai parlé hier, et vous allez m'aider. Mais c'est le truc de... Il y a eu un vrai changement culturel pour faire un groupe de travail comme ça. Alors, je reviens sur les basiques du basique. C'est comment on fait un groupe de travail, une gestion de projet, de l'intelligence collective, pas de garde de territoire, désiloter l'entreprise et dire c'est un projet commun. C'est pas un plus que l'autre, c'est le talent qui est au centre de ça. C'est comment le business va pouvoir s'adapter, être suffisamment agile. Il ne s'agit pas de se mettre un tampon sur un centre de recherche, faire une inauguration et se dire on est trop bien et le temps que ça ouvre, on est déjà obsolète. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'ai pas de réponse, si ce n'est comment je le vis. Bah, je le vis comme un changement profond de l'entreprise, une prise de conscience et en même temps la peur de se dire on va pas y arriver ou ça va aller trop vite et on va pas raccrocher les wagons. Alors que on leur accroche toujours les wagons, je pense, à la fin, parce qu'on a un impératif à la business au bout. Je vais être hyper basique. On va délivrer. Donc, on va continuer à faire notre boulot, même dans un hôtel sur un coin de table, mais on va continuer. Alors, quand on est des chimistes et des laborantins, pour eux, c'est plus complexe, mais en vrai, ils le font. Donc, après, c'est une organisation de travail dans leur tête. C'est dire pourquoi, donc, dans l'exemple, le lion des 4 jours, en fait, en vrai, nous, on n'est pas du tout pour le travail 4 jours par semaine, mais si je regarde, en fait, ils ne lanceront jamais de formulation le vendredi. C'est peut-être complètement lointain pour vous ce que je dis, mais en fait, la façon dont travaillent les gens, c'est pas parce qu'on leur dit qu'il faut travailler 4 jours, c'est que naturellement, ils vont s'adapter. Ils savent qu'ils ne peuvent pas lancer une formulation comme au digital. On ne lançait pas une mise en prod un vendredi. On ne lance pas une formulation un vendredi, puisqu'il y a le week-end, on ne sait pas. Et donc, naturellement, en fait, ils vont s'organiser d'une manière. Après, il faut leur faire prendre conscience de ça et faire accepter que ça veut dire qu'on va aménager aussi leur environnement de travail en fonction de ça, pas parce qu'on va leur imposer. Et donc, ça, c'est la partie RH et culture. Mais derrière, tous les équipements, enfin la partie immobilier, pour eux, c'est « Ah oui, mais du coup, on fait comment si on installe ça ?» Et c'est vraiment cette discussion et cette fluidité de conversation qui est un peu difficile, je trouve, mais parce que chacun a son propre agenda, j'allais dire simplement.
Alors ça, c'est parce que c'est en interne. Nous, on l'a complètement externalisé. Donc, du coup, on n'a pas cette problématique de se dire qui va prendre le lead sur le sujet, puisque c'est les RH qui sont directement avec la société externe. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on intègre les collaborateurs dans ce projet pour avoir leur avis au fil de l'eau. Et nous, on compte beaucoup aussi sur les partenaires sociaux, puisque c'est vraiment nos relais directement. Donc, ils nous font remonter aussi des choses. Ils nous disent, on veut ça, on veut ça. Et après, nous, on arbitre, mais on les intègre vraiment dans le cursus avec le prestat qu'on choisit.
Nous, on a eu un gros projet puisqu'on a déménagé en 2020 sur 40 000 m2 et c'est la première fois que tous les business de Nessie étaient réunis au même endroit. Donc, ça a bossé sur un groupe de projets au niveau de la direction générale avec évidemment une implication très forte des RH puisque le projet, on avait des problèmes d'attractivité. Avant, on était à Noisiel, ce qui était assez compliqué pour attirer des jeunes. Maintenant, on peut prendre le métro pour venir chez Nestlé. C'est quand même vachement mieux. Et on a vraiment fait bosser des catalystes dans tous les business aussi pour créer du sens commun et créer. Et c'est la première fois depuis que je suis chez Nestlé que je vois un sentiment d'appartenance de Nestlé en France. Parce que nous, on a des identités business très très fortes. Hein. Nespresso, c'est pas pareil que KitKat. Hein. On ne parle pas de la même chose. Et c'est la première fois qu'on voit un sens commun au niveau de Nestlé parce que le projet est vraiment porté par la direction générale au plus haut niveau. Et pour moi, c'est tout à fait clé que ce ne soit pas porté que par la RH, mais soit un projet vraiment au plus haut.
Merci beaucoup à toutes les trois. On peut les applaudir.
Merci.
Et je vous laisse avec Alexandre pour la suite de cette seconde journée.
Merci beaucoup, Laura. Merci infiniment. Laura, Yasmine, Laure, vous pouvez encore les applaudir. C'était très, très inspirant. Merci infiniment. On va enchaîner donc sur la seconde partie de la matinée avec la troisième session des rendez-vous one-to-one. Donc, ils vont se dérouler juste ici. Vous connaissez le principe. Donc, les décideurs, merci de retrouver votre espace personnalisé de rendez-vous. Les partenaires, de rejoindre votre premier espace pour ce premier rendez-vous de la troisième session dans votre agenda. Et mon alter ego Clément, qui doit être de l'autre côté, va vous rappeler le petit briefing. On se retrouve tout de suite.